Imaginez que par magie, vous vous réveillez un matin face à la mer il y a environ 470 millions d'années. Vous sautez immédiatement dans l'eau, évidemment, pour vous débarbouiller un peu et profiter de ces vacances inattendues. Et vous retournez ensuite sur la terre ferme. Et là, vous remarquez qu'il fait chaud, très chaud, et que l'air est lourd, qu'il est horrible à respirer. Il ne contient pas beaucoup d'oxygène et il y a presque 8 fois plus de dioxyde de carbone dans l'air qu'aujourd'hui. Pas génial, finalement, ce réveil. Mais vous décidez quand même d'aller marcher un peu, d'aller explorer la Terre. Et ce que vous remarquez assez vite, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de plantes, voire pas du tout. Les seuls coins un peu verts que vous observez sont dus à des bactéries ou des lichens. Mais il y a aussi, par endroits, de petites tiges qui sortent du sol. Des tiges avec des branches. Elles ressemblent à des arbres, en hiver, sans feuilles. Mais ce n'est pas l'hiver. Ce sont là peut-être les ancêtres des arbres. Ils poussent sur un sol très pauvre, un sol qui n'a pas encore été enrichi par la chute de feuilles, car les feuilles n'existaient pas encore. Mais ça va venir. Quelques dizaines de millions d'années passent et la teneur en dioxyde de carbone de l'air se met à diminuer, probablement à cause des arbres eux-mêmes d'ailleurs, car par photosynthèse, ils captent le dioxyde de carbone de l'air directement à travers leurs branches et leurs troncs et l'enfouissent dans les sols par leurs racines. Cette diminution du dioxyde de carbone fait baisser la température de la Terre, ce qui permet aux feuilles de pousser, et c'est ainsi que sont apparus les premiers véritables arbres. C'était il y a 350 millions d'années. Depuis, ils ont conquis la planète, dont ils ont transformé à la fois l'air et les sols. Nous, les humains, nous sommes sur Terre depuis quelques millions d'années à tout casser. Et pour vivre en groupe, nous avons appris à communiquer, les dauphins aussi d'ailleurs, ainsi que les oiseaux et plein d'autres animaux. Se pourrait-il qu'il en soit de même pour les arbres qui, eux, existent depuis plus de 350 millions d'années ? Se pourrait-il qu'il se passe, dans les forêts d'aujourd'hui, bien plus que ce que nos sens perçoivent ? C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui avec mes trois invités que voici.
Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Béatrice Bollat-Triboulot, je suis chercheure à INRAE, dans l'UMR Silva, où je suis écophysiologiste, c'est-à-dire que j'étudie les réponses des plantes à l'environnement, leur environnement climatique, physique, comme la température, la sécheresse. Et je m'intéresse particulièrement aux racines, justement.
Est-ce que vous avez un arbre préféré ?
J'en ai deux.
Vous pouvez nous le dire ?
Dans la vraie forêt, j'aime le chêne, et dans mon laboratoire, j'aime le peuplier.
Je m'appelle Francis Martin, je suis directeur de recherche à l'INRAE, dans le même laboratoire, en tout cas dans le même centre de recherche que Marie-Béatrice. Je suis également professeur à l'université de Pékin et je me passionne depuis maintenant plus de 45 ans sur les arbres, la biologie des arbres et surtout les interactions de ces arbres avec des partenaires qu'on appelle les champignons qui ont établi la symbiose dont vous parliez il y a encore quelques minutes.
Est-ce que vous avez un arbre préféré, vous?
Le chêne. Un beau vieux chêne de 200-300 ans, tordu, tortueux, moussu, c'est toujours remarquable.
Respectable, un chêne respectable.
Séculaire.
Bonjour, je suis Laura Vasquez, j'écris des livres de poésie, des romans, des pièces de théâtre, et je viens de sortir un livre qui s'intitule « Les forces » et qui est un roman. Et puis, mon arbre préféré, c'est un arbre de fiction qui se trouve dans les premières pages d'un livre qui s'intitule « Un roi sans divertissement » de Jean Giono. Jean Giono fait le portrait d'un grand et bel arbre et je crois que cet arbre, c'est un être.
Merci beaucoup Laura Vasquez, Francis Martin, Marie-Béatrice Bojat-Triboulot. Merci et bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec le public de l'Opéra National de Nancy-Lorraine. Vous écoutez Big Bang et nous allons partir à la recherche du langage des arbres.
Français.
Big Bang, Christophe Galfard.
Marie-Béatrice Bojat-Triboulot, vous êtes biologiste, spécialiste des racines des arbres. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier les arbres? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a mené vers cette recherche?
Alors, c'est une question que je me suis posée. Je me suis posée cette question, j'avais déjà plus de 30 ans, en me disant, mais pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu fais dans ce centre de recherche? Et j'ai réalisé qu'au cours de mes études, chaque fois que c'était possible, j'avais fait un stage au Québec, dans un centre de recherche forestière. Et puis, quand j'étais à Lyon et que je devais faire un DEA, j'ai cherché un DEA de recherche forestière. Et donc, je pense que ça remonte à mes jeunes années où déjà j'admirais la forêt. Et sans vraiment le savoir, sans vraiment le choisir, je pense que c'est les arbres qui m'ont choisi.
Vous pensez qu'il est possible qu'il vous ait envoyé des petits signaux ?
Probablement.
Vous aimez marcher en forêt ?
Beaucoup.
Vous en avez peut-être pas loin de chez vous ?
C'est ma source de bien-être, c'est ma prise de terre, c'est là où je vais à 500 mètres de chez moi dès que je peux pour me promener, pour admirer les arbres, voilà.
Vous aimez particulièrement les forêts de France et auxquelles on a quasiment tous et toutes accès ?
Alors j'ai voyagé, mais j'avoue que ces belles étrées, ces belles futaies gérées sont juste magnifiques avec un sous-bois dégagé, c'est particulièrement beau.
Francis Martin, est-ce que toutes les forêts sont identiques ?
Non. Bien sûr, j'aime bien les forêts lorraines, hein, ces forêts aménagées, jardinées par l'homme depuis plusieurs siècles. Les beaux chênes, les hêtres, en Lorraine et autour de Nancy, on est particulièrement ravis d'avoir ces magnifiques forêts. Et donc, je les ai parcourues pendant très longtemps. J'aime beaucoup ces forêts lorraines. J'aime en particulier les forêts qui sont autour du lac de Pierre-Percé, dans le massif du Donon, où les forêts sont mélangées avec des conifères, avec des feuillus. À l'automne, c'est extraordinairement beau. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu la chance de voyager en Chine, dans le sud-ouest de la Chine, dans une province qui s'appelle le Yunnan, où il existe encore... C'est une province chinoise qui est couverte de forêts à 60%, donc c'est encore une région extrêmement forestière et boisée. Et là, il y a des forêts primaires, des forêts très anciennes, qui sont relativement peu altérées par l'homme. Et il y a des arbres qui ont 600, 700 ans, et ces arbres-là... Et on est dans une région extrêmement humide, avec un régime de mousson. Donc, il peut pleuvoir 2 ou 3 mètres d'eau en juillet et en août. Et donc, ces arbres très anciens, couverts de mousse, couverts de lichens, de fougères, où l'eau s'écoule tout doucement, oh, ça a un effet sur moi qui est extraordinaire.
Il y a une différence entre une forêt primaire et une forêt non primaire ?
Dans une forêt primaire, elle est supposée n'avoir jamais été altérée par la présence de l'homme. Pas d'activité humaine, pas de coupe, pas de chasse. Donc, c'est une forêt qui est en libre évolution. Évidemment, elle est très différente de la forêt qu'on connaît en Europe, en France en particulier, qui est aménagée et jardinée depuis Philippe le Bel. Donc, évidemment, c'est un beau jardin, c'est souvent aussi beau qu'un parc, mais c'est très différent d'une forêt primaire et d'une forêt ancienne.
Dans le sens où, par exemple, on ne peut pas marcher entre les arbres, déjà, j'imagine.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que souvent, ces forêts primaires, tout le monde veut les voir, mais en fait, y pénétrer, c'est très compliqué, parce que les arbres meurent de leur vieillesse, vraiment. Et parfois, on peut avoir 2 ou 3 mètres de débris végétaux recouverts de mousse. Donc, en fait, c'est très dangereux de se promener dans ces forêts-là.
Est-ce qu'on aperçoit, en se baladant dans une forêt primaire, une sorte de cycle de transformation des matériaux qui ne serait pas présent dans une forêt telle que l'on les a ici,
oui,
chez nous ?
Oui, tout à fait. En fait, les processus de décomposition de la matière, des détritus végétaux, des détritus animaux, des détritus microbiens. Toute cette masse morte est en fait en permanence recyclée par tout un cortège de micro-organismes, dont des champignons. Donc effectivement, quand on regarde autour de soi dans une forêt primaire, il y a énormément d'arbres morts, d'arbres cassés, alors que dans une forêt, jusqu'à tout récemment, il était considéré comme malvenu de laisser des arbres morts ou des chandeliers, c'est-à-dire des arbres morts mais sur pied. Les forestiers considéraient que ça faisait sale. Et je crois dans la salle, il y a encore beaucoup, peut-être beaucoup de nos auditeurs qui considèrent que des arbres morts ou des branches mortes dans une forêt, c'est peut-être porteur de maladies. C'est peut-être pas une bonne idée.
Vous dites que non, donc.
Il faut absolument garder des arbres morts. Il faut multiplier les arbres morts en forêt.
Est-ce que on ressent peut-être une différence entre lorsqu'on marche dans une forêt qui a donc été aménagée où on peut marcher et dans une forêt primaire qui est complètement remplie à 3 dimensions peut-être du sol jusqu'au haut de la canopée et peut-être qu'on perd dans nos forêts à nous d'une certaine manière, c'est une question, le sentiment qu'il y a une forme d'unité présente à l'intérieur d'une forêt. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose comme ça ?
Oui, on ressent surtout une certaine sauvagerie. On craint même la présence de gros mammifères prédateurs, chose que l'on craint relativement peu dans nos forêts lorraines. C'est rare d'y trouver un loup ou un ours.
Plutôt un humain.
Voilà. Donc en fait, oui, il y a vraiment une sensibilité très différente.
Est-ce que les arbres dans les forêts sont capables de sentir la présence des autres arbres, ne serait-ce que par l'interaction des feuilles ou de la lumière ou de volatiles qui existeraient dans le ciel, Marie-Béatrice Bogiat-Riboulot?
Alors les arbres, c'est des êtres vivants et alors je ne sais pas si ils ont un langage, mais je suis sûre qu'ils communiquent. Et surtout, ils perçoivent, c'est-à-dire qu'ils perçoivent leur environnement, ils perçoivent les êtres qui sont autour. Alors leur environnement, ça peut être la température, ça peut être l'humidité, mais ça peut être effectivement aussi des composés volatiles, des composés chimiques émis par d'autres êtres vivants, mais aussi par d'autres arbres. Et en ça, on peut penser qu'effectivement, ils communiquent d'un arbre à l'autre. Je suis moins convaincue qu'ils cherchent à communiquer d'un arbre à l'autre. Je pense qu'ils émettent des messages. C'est très polémique à l'heure actuelle. On ne sait pas s'ils l'émettent pour eux-mêmes, pour leurs autres feuilles, leurs autres branches ou pour leurs voisins. Mais en tout cas, il y a des messages qui circulent et c'est une certitude. Ils perçoivent des messages de leurs voisins. Ils font la différence parfois entre les espèces... entre leurs voisins, s'ils sont de la même espèce, s'ils sont de la même famille, et avoir des réponses qui peuvent être modulées justement par la nature génétique de leurs voisins.
Et ça, on peut mesurer les réponses qu'ont ces arbres. Par exemple, quelle différence pourrait-il y avoir entre la détection d'un arbre d'une même espèce et un arbre différent ?
Alors, il y a quelques études qui montrent que un arbre va chercher à être moins compétitif si c'est quelqu'un de sa famille que si c'est un arbre génétiquement plus différent. Alors, on peut très vite devenir anthropomorphique et dire je protège les miens, mais ça a été mesuré, c'est une réalité. On ne peut pas dire qu'il y a de la cognition, qu'il y a de la volonté, mais peut-être que ces réponses, parce que moi, je considère toujours un arbre comme un être vivant qui répond à son environnement et qui ne cherche pas forcément à induire quelque chose. Mais la nature sélectionne ce qui lui donne un avantage. Et donc, si quand il perçoit telle molécule, sa réponse va lui permettre de mieux résister à la sécheresse ou de mieux se battre contre les chenilles qui attaquent, ça va être sélectionné, ça va être inclus dans son génome et ça va s'affirmer.
Par exemple, si un arbre est attaqué par des chenilles, comme vous venez de le mentionner, peut-être que cet arbre lui-même va émettre certains volatiles, certaines molécules chimiques qui vont voler dans l'air, qui seront détectées par d'autres arbres, qui comprendront, enfin, ou qui auront appris, comprendront, c'est pas le bon mot, je l'entends bien, pardon, mais qui pourront néanmoins, qui auront peut-être en eux-mêmes une réaction automatique à la présence de ce volatile, les prévenant de l'arrivée d'un parasite.
Ça, c'est actuellement accepté, enfin même démontré, et c'est quelque chose qui est totalement accepté. Ce qui est plus discuté, c'est quand cet arbre se fait attaquer par un groupe de chenilles, les feuilles vont avoir une réponse qui vont, par exemple, émettre un certain cocktail de volatiles. C'est jamais une seule molécule. Par ailleurs, les feuilles en émettent tout le temps, mais simplement, ce cocktail va changer et la réponse des feuilles voisines, que ce soit du même arbre ou des arbres différents, vont pouvoir réceptionner ce message et, par exemple, induire la production de tanins qui vont les rendre un petit peu moins appétantes pour les chenilles. Alors, ce qui est discuté actuellement, c'est est-ce que c'est vraiment à dessein des voisins ou est-ce que c'est à dessein des autres branches du même arbre? Est-ce qu'il vaut mieux se sauver soi-même ou sauver ses voisins? On est très dans ce monde humain à penser à sauver ses voisins, le support, je sais pas comment dire, mais
on n'a pas envie de laisser tomber les autres. Enfin, voilà. On dit qu'il y a quelque chose de très anthropomorphique.
Cette solidarité humaine qu'on connaît bien, qui nous caractérise, dans un écosystème végétal, on parle plutôt de compétition. Et la solidarité, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel, parce que si on veut survivre, se reproduire, laisser sa descendance, on est plutôt à essayer de se sauver soi-même. Donc il y a des scientifiques qui parlent d'écoute illicite, en fait. C'est-à-dire que ces volatiles sont pas forcément produits pour eux, mais peut-être pour la même plante, un arbre, c'est gros.
Pour pouvoir communiquer d'un bout à l'autre, alors que l'arbre...
Voilà, plus rapidement que par le système vasculaire.
Et que les autres en profitent.
Donc ça, c'est quelque chose qui est un vrai front de science, à savoir si c'est à dessein ou pas.
Laura Vasquez, ça vous inspire quelque chose, ces petits voyages en forêt ?
Oui, j'aimerais poser une question, en fait.
Ah ben, je vous en prie.
Vous avez parlé d'arbres qui meurent de vieillesse. J'aimerais savoir comment les arbres meurent de vieillesse. Est-ce qu'ils vieillissent de la même manière que nous, en s'asséchant un peu ? Enfin, comment se passe cette vieillesse des arbres et comment meurent-ils ?
Oui, en fait, les processus de vie chez les arbres, c'est vraiment des êtres vivants, hein. Donc les processus cellulaires, les processus biochimiques, les processus moléculaires sont finalement pas très loin, très éloignés des processus qui nous animent, nous les humains ou les mammifères. Donc en fait, les arbres meurent aussi, là, il arrive un certain moment, un chêne va pouvoir vivre 500, 600, peut-être 1000 ans, et puis arrivera un jour, il va mourir, son système cellulaire a atteint son optimal, il va rentrer en phase de sénescence, et il va petit à petit, ses branches vont mourir, vont tomber, donc oui. Alors dans nos forêts européennes, dans nos forêts lorraines, françaises, on laisse pas les arbres vieillir, mourir de leur belle mort. Généralement, les chênes sont coupés à 120, 150 ans. Les hêtres peut-être autour de 100 ou 120 ans. Donc on a rarement l'occasion de voir un arbre mourir de sa belle mort, ce qui peut prendre entre quelques siècles et peut-être même certains arbres un millénaire ou deux.
Il y aurait un avantage à les laisser mourir de leur belle mort ?
Ah ben c'est parti. Faut voir qu'un très vieil arbre, c'est un habitat pour un nombre considérable d'êtres vivants, d'autres êtres vivants que les végétaux. Un vieil arbre, il est plein d'anfractuosité. Chaque branche morte peut héberger, bien sûr, des champignons, mais aussi des pics, des chauves-souris. Donc, c'est un univers. J'ai écrit un livre récemment avec Florian Gaden qui s'appelle L'Arbre-Monde, où justement on essaye de montrer par la peinture, par des aquarelles, par des textes, comment ces arbres très anciens hébergent en fait plusieurs milliers d'espèces. Sur un vieux chêne, il peut avoir 2000 espèces d'êtres vivants qui vivent en permanence et qui dépendent très fortement de cette espèce végétale.
Et on ne pourrait pas dire qu'il y a là une espèce de dialogue entre les différentes espèces dans la forêt ?
Alors beaucoup de ces êtres vivants qui vivent comme prenons des fougères ou des mousses ou les lichens, ils se servent de l'arbre comme d'un support. Donc je ne pense pas qu'il y ait un dialogue entre les mousses, les lichens, les fougères qui vivent sur les vieilles fourchaisons d'un chêne. Mais par contre, le cortège de microbes ou certains insectes vont avoir des liens très étroits avec l'arbre. Les insectes pollinisateurs vont... La vie même, de la reproduction même du chêne va dépendre de ces insectes pollinisateurs. Et puis, on le verra tout à l'heure, il y a tout un cortège d'êtres microscopiques sur les racines qui aident vraiment les arbres à se développer, à se nourrir, à vivre.
Vous parliez tout à l'heure d'une compétition entre arbres. Est-ce que cette compétition, elle est notamment à l'extérieur pour le soleil, pour atteindre la lumière ?
Bien sûr, elle est pour tout. Elle est pour les ressources en général, donc ce qu'on appelle les ressources aériennes, la lumière, et puis les ressources souterraines, l'eau et les nutriments. Donc, pour bien grandir, il faut manger et il faut avoir accès donc aux ressources, que ce soit en poussant plus vite, ce qu'on appelle les arbres dominants, qui vont pouvoir accéder à la canopée, plus de soleil, ou en étalant mieux son système racinaire, en ayant accès à un sol plus humide, plus profond, plus loin.
Je vous propose, avant de partir sous le sol des forêts, de vous immerger un petit peu dans la forêt en écoutant A Forest des Cure. Nous sommes toujours avec nos invités, l'écrivaine Laura Vasquez et les biologistes Francis Martin et Marie-Béatrice Boja-Triboulot, ainsi que le public de l'Opéra National de Nancy-Lorraine.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Lors de notre voyage dans le passé, au début de cette émission, je vous ai parlé des toutes premières plantes, celles qui n'avaient pas encore de feuilles et qui poussaient à la surface d'une terre franchement hostile. Si ces premières plantes ont réussi à survivre et à proliférer dans des conditions particulièrement difficiles, c'est parce qu'elles avaient une excroissance particulière, une excroissance souterraine qui les différenciait des algues. Elles avaient des racines, ce que les algues n'ont pas. Mais ces racines, aussi puissantes qu'elles aient pu être, ne permettaient pas aux plantes de piocher librement dans les ressources souterraines, tout simplement parce qu'hormis l'eau, ces ressources n'existaient pas. Pour se nourrir, les racines ont dû s'associer à un autre organisme et ainsi créer une des collaborations les plus extraordinaires et fructueuses qu'ait jamais connue notre planète. Une collaboration qui existe encore aujourd'hui et qui peuple le monde souterrain. Une collaboration que vous adorez, me semble-t-il, Francis Martin.
Ah oui, j'ai passé ma vie à étudier cette interdépendance, cette association, cette interaction, cette symbiose entre les racines des arbres, la racine des plantes, en particulier les arbres, et un autre groupe d'êtres vivants qu'on appelle les mycètes ou les champignons. Alors pas le champignon qu'on va ramasser dans quelques jours dans les forêts autour de Nancy, mais le réseau de cellules fongiques qu'on appelle le mycélium, qui parcourt le sol au cœur des ténèbres et qui explore les moindres anfractuosités du sol à la recherche de nourriture, azote, phosphate, potassium, et transporte tous ces éléments nutritifs, ces oligoéléments et l'eau vers les racines. Et en échange de ce travail de mineurs, de prospecteurs, de transporteurs, eh bien la plante va rétribuer ses partenaires fongiques en sucre. Donc on a vraiment une symbiose à bénéfice mutuel, gagnant-gagnant.
D'un côté, on a les arbres avec leurs feuilles qui touchent et qui prennent et qui avalent l'énergie du soleil et fabriquent des sucres, ce que vous êtes en train de dire, qu'ils envoient vers leurs racines. Ouais. Et ces champignons ou mycètes en profitent. Ouais,
c'est presque un tiers des sucres qui sont photo-assimilés, qui sont fabriqués par les feuilles. C'est près d'un tiers qui va migrer vers le système racinaire et être distribué à l'ensemble des partenaires champignons, mais aussi tout un ensemble de micro-organismes qui vivent autour des racines et qu'on appelle le microbiote.
Je crois que j'ai lu quelque part que pour chaque mètre de longueur de racine, on a quasiment un kilomètre.
C'est tout à fait vrai. Il y a des collègues qui ont passé du temps, beaucoup de temps, à mesurer la longueur de ces réseaux mycéliens. On dit aussi que dans une cuillère à café de terre, de sol d'une forêt, il y a près de 100 kilomètres de réseau mycélien. Donc c'est un monde invisible, mais quand vous marchez en forêt, vous marchez sur ce tapis, cette toile de réseau mycélien, alors composé de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'espèces de champignons différents. On va y retrouver les cèpes, les truffes qui sont fameux, mais aussi des lactaires, des russules, des cortinaires, des centaines d'espèces qui vont être associées, former une alliance avec les arbres. Et cette alliance, elle dure depuis, elle est extrêmement ancienne. Elle date de 180 à 200 millions d'années.
Vous disiez alliance, symbiose. Une symbiose, c'est quoi? Symbiose, c'est une collaboration ou c'est vraiment
symbiose,
plus que ça?
Symbiose, c'est plus fort encore. Une symbiose, c'est une interaction sur la durée et qui peut être... En tout cas, en français, on considère que c'est une symbiose mutualiste à effet bénéfique.
Par exemple, ça signifie, me semble-t-il, que l'intérieur même des cellules des racines des arbres ont été quelque part visités par celles des champignons et des mycètes.
Alors là, on rentre dans le détail de la biologie de ces interactions et de ces symbioses. On considère qu'il y a au moins deux grandes familles de symbiotes, donc de champignons capables d'interagir avec les plantes, avec les arbres en particulier. Il y a des champignons qui sont capables... Alors c'est vraiment ces champignons qui ont un nom très barbare, hein, Glomeromycota. C'est vraiment la plus ancienne lignée de champignons terrestres. C'est celle qui, comme vous le disiez tout à l'heure, a aidé les plantes à atterrir. Ces champignons sont capables... Ce réseau de champignons est capable de rentrer dans la racine, mais également de rentrer dans les cellules de la racine et de former des petits arbuscules qui vont être un lieu d'échange extraordinaire entre les deux partenaires.
C'est là qu'on les voit partager les ressources.
Et les autres champignons, c'est vraiment ce qu'on ramasse en forêt. Les lactaires, les courtinaires, les cèpes, eux sont appelés champignons ectomycorhiziens. Ils rentrent dans la racine, ils forment un manteau autour de la racine, comme une chaussette autour de la racine. Ils pénètrent dans les interstices de la racine, mais ils ne pénètrent jamais à l'intérieur de la cellule.
Les truffes font partie de quelle...
Les truffes sont des champignons ectomycorhiziens, comme les cèpes, comme les chanterelles, et qui donc sont essentiellement en interaction avec les arbres.
Est-ce que, à travers ces mycètes, l'arbre, de par les ressources qu'il offre, par exemple, peut communiquer ou dialoguer avec les arbres alentours?
C'est un débat très chaud actuellement au sein de la communauté scientifique. C'est vraiment le front de science, là. On a pu lire dans certains romans, comme le livre de Richard Powers, de L'Arbre au Monde. On voit bien dans le film de Cameron, Avatar, cette idée que tous les êtres vivants pourraient presque être en interaction grâce à ces réseaux de champignons qui traverseraient toute la planète. En réalité, les scientifiques sont bien loin d'avoir démontré ces mécanismes. On sait que le réseau existe, on sait que ce réseau peut lier, coupler une dizaine d'arbres dans une forêt, dans une parcelle forestière. De là à imaginer que des flux de sucre ou des flux d'informations transitent à travers ces réseaux d'arbre en arbre, là c'est vraiment très très discuté. Pour l'instant, on n'a pas d'arguments solides pour dire que les arbres utilisent ce système de réseau souterrain comme un moyen de communication.
Étant donné que vous êtes spécialiste des racines, Marie-Béatrice Beaujat-Triboulot, j'adorerais vous transformer en racine, tout d'un coup, comme ça, et vous demander de nous décrire ce que vous voyez sous le sol. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de types différents de racines, mais je vous laisse en choisir une éventuellement ou nous raconter ce qui se passe sous le sol. Vous êtes une racine.
Waouh, je fais bien. Alors moi, je partirai du départ. Si on considère un arbre, on a un immense sous-pied. Il faut que vous imaginiez déjà qu'il y a un système racinaire. Alors moi, je fais la différence entre une racine et un système racinaire, mais il y a un système racinaire qui est quasiment aussi grand dessous. On le voit pas, mais il est là. Et pourtant, il part d'une toute petite et d'une seule racine. C'est-à-dire qu'à la sortie de la graine, on va avoir une racine petite, molle, 1 millimètre de diamètre ou moins, et elle va devoir s'enfoncer dans le sol. Elle va devoir pousser les grains, elle va devoir grandir, et puis, avec le temps, elle va s'allonger, réussir à s'enfoncer, elle va se ramifier. Et pour les arbres, qui sont des espèces pérennes, elle va grossir en diamètre, se lignifier. Et ces grosses racines vont devenir des branches qui vont porter d'autres racines. Et c'est comme ça qu'on construit le système racinaire, où il va y avoir des grosses racines, que j'appelle presque des racines-branches, des racines fines, qui vont porter des racines encore plus fines, qui, elles, vont se faire mycorhiser et vont jouer un très grand rôle dans l'absorption des nutriments et de l'eau.
Donc celles qui sont attachées aux champignons, en gros.
En gros, voilà. Oui.
Est-ce que ces racines d'un arbre détectent les racines des autres arbres avoisinants?
Elles font mieux que ça, elles les détectent. Elles peuvent se greffer dessus. Alors il peut y avoir des... On sait très bien que le mycélium d'un champignon va être connecté à plusieurs arbres, et c'est pour ça qu'on a imaginé cette possible communication d'un arbre à l'autre, même si elle n'est pas démontrée, qu'on ne peut pas y mettre de l'intention. On sait aussi qu'il y a de la communication arbre à arbre via le réseau vasculaire des racines, qui peuvent se greffer exactement comme deux branches qui se touchent, et ça finit par connecter les vaisseaux. Et puis chimiquement aussi, on sait que elles détectent leurs voisines. Elles détectent aussi, je parlais tout à l'heure, de reconnaître potentiellement si c'est un proche parent ou pas. Et puis avoir des comportements, des réponses qui vont être différentes. Des réponses d'évitement, c'est-à-dire si c'est mon voisin, je vais pas pousser trop vite pour pas l'embêter trop. Si c'est mon ami, si c'est pas mon ami, je peux... Alors je sais pas si c'est pensé, en tout cas c'est pas du tout... cognitif, encore une fois, mais les réponses peuvent être différentes et dépendre de l'espèce, mais aussi de la parenté génétique.
Est-ce que au-delà du réseau de champignons, de rhizomes, etc., de champignons, il y a une possible communication en utilisant une sorte d'autre langage qui serait via les bactéries elles-mêmes.
Alors ce réseau de mycélium, donc faut imaginer un tapis, hein, dans les 20 premiers centimètres du sol, sous les feuilles mortes, il y a ce réseau extrêmement dense de filaments fongiques. Hein. Et on sait aujourd'hui, on a pu l'observer, qu'en fait ces réseaux servaient d'autoroute aux bactéries du sol pour passer d'une zone à l'autre du sol. Et on peut marquer d'ailleurs avec des molécules fluorescentes, on peut marquer ces bactéries et les observer sous un microscope en train de commuter, de se promener d'un endroit à l'autre du sol en utilisant l'infime couche d'eau qui est sur les filaments fongiques. Et donc ces filaments fongiques servent de support, de route à des transits de bactéries, peut-être d'autres microbes d'ailleurs, hein, entre les différentes parties du sol. Donc c'est un monde extrêmement foisonnant, extrêmement actif, qu'on n'imagine pas. Au cœur des ténèbres, il y a des choses incroyables qui se passent.
Et ces mouvements bactériens ne sont pas nécessairement uniquement négatifs, ils peuvent être profitables aussi aux arbres éventuellement ?
Là, on ne sait pas pour l'instant.
On ne sait pas encore. Ouais. Laura Vasquez, je crois que vous aviez envie de nous lire peut-être un petit extrait d'un texte sur les forêts.
Oui, alors, à la fin de mon roman, Les Forces, la narratrice part et elle va dans la forêt. Alors, je vais vous lire un tout petit passage. Mais aux yeux de la société, je puais. J'avais une odeur sans recouvrement, comme les animaux. Je me suis enfoncée. J'ai vu les rayons toucher les arbres. La forêt respirait. C'était le matin. La brume circulait. J'avais des récits de bêtes, de veuves, de bûcherons, et tout ceci bougeait en moi. J'écoutais comme une niaise le murmure des feuilles, et personne d'autre dans le monde n'avait entendu ce murmure, précisément dans ce moment, dans cet endroit. La vie est simple. Les arbres vivent ensemble. Ils forment la forêt. Lorsqu'ils développent des idées à propos de l'individu et de la société, Kant fait appel à des images sylvestres. Et lorsque nous parlons des arbres, nous parlons de nous. Et lorsque nous parlons des fleurs, nous parlons de nous. Et lorsque nous parlons des autres, nous parlons de nous.
Merci pour cette lecture. Et vous pouvez rester avec nous. On se retrouve dans quelques instants après Soulja de Celia Wa pour les questions du public et un son mystère.
Cause you know they're not gonna be.
Nous sommes toujours avec le public de l'Opéra National de Nancy-Lorraine et avec nos invités, l'écrivaine Laura Vasquez et les biologistes Francis Martin et Marie-Béatrice Bojat-Triboulot.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Alors c'est l'heure des questions du public et nous avons une première question de la part d'Honoré.
Alors bonjour, merci de nous donner la parole. Donc je m'appelle Honoré et je viens aussi pour 4 élèves de première du lycée La Malgrange. Et dans le cadre de notre projet d'enseignement moral et civique, on réfléchit à comment faire vivre cette année un arbre, alors pas l'arbre auquel on pense, mais l'arbre à livres du foyer du lycée, pour en faire un lieu d'interaction sociale. Et par rapport à ça aussi, on avait une question sur un autre sujet qui nous concerne, nous aussi les jeunes, c'était celui du réchauffement climatique, qui nous concerne donc particulièrement. Pour vous deux, comment est-ce que vous l'observez particulièrement et quelles sont les actions possibles ?
Ouais, évidemment, la quasi-totalité des équipes de recherche à travers le monde s'intéresse à cette question cruciale de l'impact, de l'effet du changement climatique sur les forêts et en particulier sur ces interactions avec les champignons, sur le microbiote des plantes et des arbres. Et ce qu'on observe, évidemment, c'est que l'augmentation des températures, mais surtout les sécheresses récurrentes, hein, telles qu'on a pu les connaître en Lorraine ces dernières années... Ouais, souvent, c'est la combinaison des deux effets qui est catastrophique sur les arbres et donc sur le cortège de microbes et de champignons. Et on observe d'abord des dépérissements forestiers de plus en plus fréquents. La mère Béatrice pourra peut-être compléter sur cet aspect-là. Et en ce qui concerne les champignons, on observe des mouvements, peut-être pas des disparitions de champignons, mais des migrations de champignons. Les champignons, dans les régions montagneuses, ont grimpé d'à peu près 200 mètres en altitude ces 20 dernières années. Et puis, ont migré d'à peu près 50 à 100 kilomètres vers le nord. Donc, l'augmentation de la température, la multiplication des sécheresses modifie ce cortège de champignons et les arbres qui sont associés.
Est-ce qu'il y a moyen, je vais rebondir sur la question, est-ce qu'il y a moyen de prédire éventuellement les populations futures par rapport à certains endroits
et... Oui, tout à fait, on a déjà des cartes prédictives. Alors comme tous les modèles, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Ils reposent en fait souvent sur les modèles météorologiques qui nous prédisent telle ou telle température ou telle quantité de précipitation dans 50 ans ou dans 100 ans. Et sur la base de ces données, on peut projeter ce qu'on appelle l'enveloppe écologique des espèces. Elles ont une enveloppe écologique aujourd'hui. Elles se sentent bien à une certaine température avec une certaine quantité de pluie et de précipitation. Et donc, on peut imaginer où elles seront dans 50 ou 100 ans. Donc on sait que le hêtre, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, que Giono a si bien décrit, eh bien le hêtre aura peut-être disparu de notre territoire dans 100 ans. Donc oui, on sait prédire, mais avec beaucoup de précautions, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien aujourd'hui comment les espèces vivantes, les arbres ou les champignons, vont réagir. On ne sait pas très bien encore quelle est la physiologie qu'ils vont pouvoir développer pour atténuer l'impact de ces changements climatiques. Donc modèle, oui, prédiction, oui, mais avec beaucoup d'incertitudes.
Si je peux compléter.
Oui, bien sûr.
Je pense qu'effectivement, il y a des modèles. On sait qu'ils marchent pas trop bien parce que ces modèles, ils sont assez génériques. Ils reposent sur des prédictions de climat qui sont pas top encore. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est important pour vous, les jeunes, d'avoir des forêts plus tard. Actuellement, il y a beaucoup de tentatives de faire migrer les espèces parce que les espèces d'arbres migrent beaucoup moins vite que le réchauffement, que les températures, que les changements de précipitation. Et on essaye d'aider la forêt par ce qu'on appelle de la migration assistée. Donc on y réfléchit beaucoup, c'est très compliqué. Ou alors en tentant, en essayant, en faisant ce qu'on appelle des îlots d'avenir. C'est l'ONF qui est beaucoup impliqué dans tout ça. Mais
l'Office national aussi. Des forêts.
Voilà, tout à fait. Où on va, sur la base de l'écologie qu'on connaît de ces espèces, essayer du chêne de Turquie, par exemple, qui pousse dans des régions un peu plus chaudes, mais montagneuses, qui supportent le gel. Parce que, par exemple, ici, en Lorraine, alors effectivement, il fait plus chaud, plus sec, mais il continue de geler encore. Donc, on doit cumuler un peu toutes ces contraintes et trouver les espèces. Et même si on fait beaucoup d'efforts pour comprendre c'est quoi les mécanismes qui font que ces arbres vont résister ou pas, on a pas le temps de compter que là-dessus et il faut tenter en essayant des dizaines d'espèces qui viennent de climats qu'on imagine dans le futur pour anticiper un peu.
Nous avons une deuxième question de Muriel.
Oui, bonjour, bonjour à tous. J'ai une question suite à ce que vous avez expliqué sur les arbres. Est-ce que les arbres peuvent-ils ressentir quelque chose lorsqu'on les enlace ou lorsqu'on les embrasse? Parce que j'ai des amis qui font ça, qui ça fait du bien. Et à l'inverse, lors d'une promenade en forêt avec des enfants, il y a un enfant qui casse une branche devant moi et une amie qui, tout de suite, « Ah non, mais en fait, tu te rends compte de ce que tu as fait ?» qui est allé panser l'arbre et le rassurer, etc. Et donc, à l'inverse, est-ce qu'ils ressentent quelque chose quand on les coupe ou quand on leur fait du mal?
Alors, ce qu'ils font à nous, je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez les arbres et la forêt. Je pense que vous savez tous le bien qu'ils vous font de se promener en forêt. D'enlacer un arbre, il y a maintenant des gens qui font de la sylvothérapie, effectivement, des activités, des ateliers où... pas que se promener, mais les enlacer. Alors moi, je suis pas assez psychologue et je travaille pas dans ces domaines où s'il y a un effet significatif ou pas, parce qu'on est scientifique, on aime avoir des preuves, et ça c'est quand même difficile à tester dès qu'il y a de l'humain, qu'il y a de la répétition. Par contre, sur est-ce que les arbres perçoivent si on les enlace, si on les embrasse, je sais pas, mais si on les enlace, probablement, les arbres ils perçoivent énormément de choses, ils perçoivent les vibrations. Il y a beaucoup de travaux actuellement sur la perception du son par les plantes. Donc, si vous leur chantez quelque chose, peut-être ça peut leur faire du bien. Si on touche un tronc, je suis pas sûre qu'ils perçoivent parce que c'est pas là où il y a le plus de sensibilité. Mais quand vous tordez une branche sans la casser, vous pouvez induire une réduction de croissance, par exemple. Donc, je pense pas qu'ils le pensent, je pense pas qu'ils le ressentent émotionnellement, mais ils le perçoivent.
Il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que les arbres sont sur Terre depuis 380 millions d'années, à nous à peine 1 million, donc ils ont évolué pendant des centaines de millions d'années sans les humains. Donc à mon avis, les arbres, ils en ont rien à faire des humains. Ils les sentent et ils les voient même pas.
Cela dit, c'est tout de même assez agréable de faire un câlin à un arbre de temps en temps. C'est pour notre propre bénéfice.
Attention,
à nous.
Attention au tic.
Oui, bien sûr. C'est la punition de trop aimer les arbres. Nous avons une troisième question de Clotilde.
Oui, donc bonjour. Je suis aussi élève au lycée La Malgrange. Madame Vasquez, on sait que chaque artiste a une manière spécifique d'être au fur et à mesure de sa création. Et on souhaiterait donc savoir dans quel état, peut-être de plénitude ou de concentration, êtes-vous lorsque vous vous mettez à écrire? Et en fait, vous sentez-vous libre dans ces moments de création?
Laura Vasquez.
Oui, alors, dans quel état je me sens lorsque j'écris? Bon, ça dépend. Quand ça se passe bien, disons, quand je suis vraiment en train d'écrire, c'est-à-dire pas tous les jours, j'essaie tous les jours, mais je n'y arrive pas tous les jours. Quand je suis vraiment en train d'écrire, il se passe quelque chose qui ressemble à une forme de d'hyper-présence. C'est comme si j'étais absolument là, absolument donnée à ce que je fais. Et j'ai l'impression, à ce moment-là, d'être précisément en train de faire ce que je dois faire. Et donc, peut-être, de contribuer au monde, à l'univers, au même titre que les arbres, peut-être.
Merci. Et c'est l'heure du son mystère, où je vais faire écouter à mes trois invités un son. Je compte sur vous, Francis Martin, Laura Vasquez et Marie-Béatrice Beaujat-Triboulot, pour tenter de deviner de quoi il s'agit. Le voici. Je ne sais pas si vous trouvez ce son très agréable, mais peut-être avez-vous une idée de quoi il s'agit ?
Ou une vieille porte qui grince.
Moi, j'aurais dit une branche qui, enfin, le bruit du grincement, de frottement de branche.
Ah, pas mal, Laura Vasquez.
Moi, j'ai pensé à une composition de musique contemporaine. Il y a un compositeur qui s'appelle Pierre Henry qui a composé une œuvre à partir du grincement d'une porte. Alors, c'est peut-être un extrait de sa pièce.
Eh ben, je propose qu'on le réécoute un instant et qu'on soit sûr de ça. Vous pouvez continuer à réfléchir. Vous pouvez parler de vos idées en écoutant. La porte, c'est pas mal. Hein. Je dis pas que c'est vrai, mais je dis pas que c'est ça. Eh bien, je vous propose d'écouter l'explication de ce son qui nous a été donné par l'audio-naturaliste Charles Rose, alias Chasseur de Sons, et qui est à l'origine de l'enregistrement.
Ce que vous venez d'écouter a été enregistré à Strasbourg, dans la forêt de Robertsau, au printemps, au mois d'avril. J'ai enregistré ce phénomène sonore en utilisant un microphone un peu particulier, qui ressemble à un stéthoscope. C'est en fait un microphone de contact que j'ai posé sur le tronc d'un bouleau. Et ça sert à quoi ? Ça m'a permis en fait d'isoler le son en question sans avoir les bruits environnants. Donc le microphone de contact permet vraiment de capter seulement la vibration. Et quelle est cette vibration ? Quel est ce son en question ? Eh bien, c'est le son d'un grincement, un grincement d'arbre, un phénomène que l'on perçoit surtout lors de journées venteuses. Et pour vous donner une petite explication, l'intensité et la fréquence du son du grincement va dépendre de plusieurs facteurs. La position de l'arbre, la taille de ses branches ou encore même l'épaisseur du tronc. Dans certains cas, deux arbres ou deux branches qui se frottent vont créer ce son. Et dans d'autres, c'est toute la structure du tronc qui peut se mettre à vibrer. On peut alors entendre des grincements plus aigus ou plus graves. Francis Martin et Marie-Béatrice Boja, je voudrais aussi partager un autre son mystère pour lequel j'ai encore des questions. Il a été enregistré de la même manière, dans le même lieu, mais en fin d'été et à la surface d'un bouleau situé à proximité d'une petite mare. Est-ce que vous auriez une idée de ce que ça pourrait être ?
Une petite idée ? Pas du tout ?
Pas du tout. Je m'attendais, boulot, fin d'été, je me disais cavitation, parce que les petites bulles qui se forment dans les vaisseaux, ça fait du bruit, on peut les entendre. Mais là, bord d'un étang, c'est moins probable.
C'est pas un crapaud sonore.
Je crois pas. En tout cas, Charles Rose nous a suggéré qu'il s'agissait peut-être d'un insecte, mais il n'en est pas certain.
Ah ouais.
Ça vous semble possible ?
J'espère que c'est amplifié, sinon ça fait peur.
Oui.
Ça, c'est pour tous ceux qui aiment faire des câlins aux arbres. Sachez qu'il se passe des choses à l'intérieur. Et avec cette petite musique, on annonce que c'est déjà la fin de cette émission. C'était Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous, Laura Vasquez. Merci à vous, Francis Martin. Merci, Marie-Béatrice Boja-Triboulot. Et merci au public de l'Opéra de Nancy-Lorraine. Merci aussi, évidemment, à Charles Roge, alias Chasseur de Sons, pour ses sons étranges d'arbres. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la technique Thomas Robin, Charles Bouticourt, Lucien Lefebvre, Florent Layani, en chargé de production Guillaume Rialian, et à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, et à la programmation Élodie Royer, avec le relais de Laura Dumaise.